Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Calvados Manche pour votre rendez-vous mensuel avec Mgr Boulanger, évêque de Bayeux-les-Yeux. Mgr Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Alors le mois dernier, Mgr, nous avons parlé de la rentrée des classes et de la rentrée diocésaine, mais c'est aussi la rentrée de la catéchèse depuis la mi-septembre. Alors première question toute simple, Mgr, pourquoi catéchiser ces enfants ?
D'abord, un certain nombre de parents demandent le baptême pour leurs enfants. Le baptême, c'est le signe que on désire devenir chrétien. Hein. Et donc, ce n'est pas parce que les grands-parents l'étaient que les petits-enfants le seront. Si on demande le baptême, c'est aussi pour avoir le soutien de la communauté chrétienne. Et on sait aujourd'hui que, au fond, puisque l'enfant va à l'école, il a besoin de découvrir, il a besoin d'apprendre. Et on sait aussi qu'au niveau de la foi chrétienne, il n'y a pas seulement à apprendre une ou deux prières, c'est à la fois l'histoire de la vie des chrétiens, mais c'est aussi l'évangile, c'est aussi connaître un peu le sens de la vie chrétienne et des sacrements. Donc les enfants, en général, font l'éveil à la foi, et tout petit, c'est-à-dire 6-7 ans, oui, et ensuite, ils sont comme quand ils sont à l'école primaire, dans différents groupes. C'est bien quand il y a assez d'enfants pour se retrouver par niveau. Mais bien souvent, que ce soit en particulier en rural, on rassemble des enfants de CE1, CE2 ou CE2, CM1, hein. Voilà, parfois c'est CM2, 6e, quand il n'y a pas beaucoup de 6e. C'est toujours intéressant aussi d'avoir sur ce seuil, quand ils sont en 6e, ils sont déjà au collège, c'est déjà un peu parfois l'aumônerie. Donc voilà, pourquoi c'est important que les parents qui souhaitent que leurs enfants deviennent chrétiens, on ne naît pas chrétien, on le devient, l'inscrivent au catéchisme.
Oui, et puis alors, on peut aussi faire remarquer que dans ces groupes de catéchèse, il n'y a pas que des enfants baptisés.
Oui, alors aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des parents qui font aussi ce cheminement. Il y a des mamans qui, au moment d'inscrire leur enfant, vont faire le cheminement aussi, parce qu'elles n'ont pas été baptisées, du catéchuménat, ou le papa. Tout à fait. C'est parfois un grand frère, une grande sœur. Puis il y en a aussi qui au collège demande à être baptisé, ou des enfants eux-mêmes. Et ça arrive, une petite fille là qui a demandé le baptême, ses parents ne sont pas croyants, disent-ils. En tout cas, elle a demandé à suivre la catéchèse et à être baptisée. Vous voyez que aujourd'hui, on a des situations très diverses.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Souvent, enfin, un phénomène que l'on remarque et qui a tendance à augmenter, c'est que les enfants arrêtent la catéchèse après la profession de foi et ne vont pas jusqu'à la confirmation alors que c'est un sacrement. Comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à poursuivre ça? C'est une réelle question aujourd'hui.
Oui, beaucoup d'adultes qui accompagnent les enfants, vous direz que même un certain nombre arrêtent après la première communion.
Oui.
Et c'est une souffrance de beaucoup de catéchistes de voir que ils ont fait leur communion et puis ils ont eu 2 ans ou un peu plus et puis ils arrêtent. Donc là aussi, ils font du sport, ils font une multitude de choses. S'ils ne sont pas aidés, encouragés par la famille, très vite ils arrêtent. Il y a aussi le phénomène des copains. On vient au caté parce que les copains et les amis sont là. C'est beau, il y a des enfants qui viennent. C'est pas les parents qui les ont encouragés, c'est eux-mêmes qui sont venus parce qu'ils ont été invités par un ami ou un copain. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une souffrance de voir que peu de jeunes continuent vers la confirmation. Et j'entends les confirmés me dire que pour eux c'est une souffrance de voir que à la profession de foi ils étaient 10 et puis qu'à la confirmation il en reste 3. Mais les catéchistes vous diraient que c'est pas uniquement après la profession de foi, cela a toujours existé, c'est maintenant après la première communion. Donc ça, c'est encore un phénomène encore plus plus important, parce que ils ont eu peu d'éléments catéchétiques. On peut dire que il y a une grande ignorance religieuse de la part de nos contemporains, et cette culture un peu laïciste empêche d'aborder tout sujet religieux, alors que les jeunes se posent des questions, et c'est pas pour autant qu'ils vont être fidéistes ou qu'ils vont envahir nos églises, enfin.
Alors, toujours à propos des jeunes, Monseigneur, vous avez rencontré en septembre, et vous allez rencontrer encore durant ce mois d'octobre, plusieurs dizaines de jeunes confirmant, issus des pôles missionnaires de Villers-Bocage, d'Ouvres-la-Délivrance, des Bayeux. Que vous disent succinctement ces jeunes?
Alors, j'ai cette chance, je le dis parfois à leurs parents, de recevoir une lettre. Comme ce sont des jeunes qui ont 12, 13, 15 ans, oui, ils partagent des choses de leur vie de jeunes, de leurs projets. Ils se projettent sur l'avenir, pour l'avenir, alors que nous, les anciens, on regarde déjà un peu dans le rétroviseur. Et c'est une chance, c'est rare dans notre Église, ceux qui se projettent toujours vers l'avenir. Eux, l'avenir est devant eux. Ils ont des tas de projets, ils me les partagent, ils disent leurs passions, etc. Ils me parlent bien sûr de leur collège. Et en même temps, ils se posent beaucoup de questions sur la foi. C'est l'âge, je dirais, où ils ont fait le choix. Ils ont été encouragés parfois par leurs parents, tant mieux. Certains, c'est un choix personnel. D'autres, c'est parce qu'il y a les... au collège, dans l'enseignement catholique, il y a une aumônerie, ils connaissent une animatrice qui les accompagne, donc ils sont encouragés. Ils me parlent de la foi, et c'est beau parce que ils savent qu'ils ont besoin de l'Esprit Saint pour tenir. Ils sont très minoritaires. La plupart, par exemple, ne vont pas mettre sur Snapchat ou Facebook, leurs photos de confirmation. Parce qu'on sait que dans les réseaux sociaux, ils vont en prendre plein la figure, on va se moquer d'eux, etc. Donc là aussi, c'est un peu cette solitude qu'ils vivent, solitude du chrétien. Beaucoup de ces jeunes me parlent de la prière, ils prient dans leur chambre, un certain nombre essaient d'aller à la messe. Il n'y a pas toujours beaucoup de jeunes dans nos églises, c'est aussi leur souffrance. Mais en même temps, je leur dis ma joie, en tout cas, de leur donner ce sacrement. Et aussi, je les invite à rejoindre des groupes de jeunes et à prier l'Esprit Saint pour eux.
Donc à rejoindre des groupes de jeunes, ça peut être dans des associations, des mouvements. Et puis il y a tout ce que propose la pastorale des jeunes, notamment pour les soutenir. Et ce grand amphore qui est le pèlerinage des confirmés à Rome et Assise, qui aura lieu prochainement, là, du 20
Alors,
au 26 octobre.
Alors voilà, vous avez raison. On peut dire que dans notre diocèse, grâce à la pasto jeune 14, comme ils l'appellent, il y a un certain nombre de laïcs, beaucoup, je les félicite, qui sont engagés dans leur paroisse ou sur les pôles missionnaires pour les jeunes. Nous allons partir à Rome avec environ 235 jeunes et plus d'une quarantaine d'adultes qui les accompagnent. Ces adultes qui les accompagnent sont dans les paroisses. Ce sont eux qui, au long de l'année, retrouvent ces jeunes pour les préparer à la confirmation. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, ces adultes vont aussi vivre ce pèlerinage avec eux, comme je vais le vivre. C'est un temps fort pour les jeunes. Ils ont besoin de se retrouver avec d'autres. Et puis, il y aura cette rencontre avec le pape. Il y aura Rome, bien sûr, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, les premiers chrétiens. Puis, il y aura surtout Assise, qui est vraiment pour eux une terre c'est Saint François d'Assise, mais une terre de paix, une terre, je dirais, qui nous apporte vraiment la joie de l'Évangile. On touche du doigt ce qu'est l'Évangile, et donc pour ces jeunes, c'est un temps fort, très très important. Ils en reviennent transformés. Il y a aussi le pèlerinage à Lourdes pour les jeunes, et puis beaucoup d'activités qui leur sont proposées tout au long de l'année.
Pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner
L'actu du diocèse sur RCF avec Monseigneur Boulanger, évêque du diocèse de Bayeux-Élysieux, au micro d'Alexandre Barbet.
RCF.
Durant cette première semaine d'octobre, la basilique de Lisieux est en fête, puisque ce sont les fêtes thérésiennes. Alors, Monseigneur, est-ce que vous ne vous lassez pas de ces fêtes thérésiennes depuis le temps que vous y participez?
Non, je ne me lasse pas. J'aime toujours autant Sainte Thérèse. Depuis mon enfance, je rappelle que je venais prier avec ma famille pratiquement tous les ans, à Lisieux, moi qui suis du Nord, et que je priais particulièrement sur la tombe des parents Martin, de ses parents, qui étaient loin d'être à l'époque béatifiés et canonisés, et j'aurais eu au moins cette chance, dans mon épiscopat, de voir Louis et Zélie Martin non seulement béatifiés, mais aussi canonisé. Donc ma passion pour Thérèse et puis Charles de Foucault, elle demeure intacte. Et pour moi, c'est toujours une joie d'aller à Lisieux, de la prier. Nous sommes allés même avec les séminaristes prier dans sa chambre tous les ans. Nous allons confier les vocations à Sainte Thérèse au Carmel dans sa chambre. Donc pour moi, non, je ne me lasse pas. Je tiens vraiment à célébrer ces fêtes et j'invite, et ça pour moi c'est un peu une souffrance, de voir qu'il y a peu de diocésains qui viennent pour ces fêtes thérésiennes. J'aimerais que dans les paroisses, on se mobilise un peu plus. On va accueillir les reliques de Sainte Bernadette. Bravo, Je ne peux que me féliciter les paroisses qui vont les accueillir. Mais j'aimerais aussi qu'on se mobilise autant pour Sainte Thérèse, parce que notre diocèse lui doit ce qu'il est, tout simplement.
Natacha Saint-Pierre, ça c'est d'actualité aussi, a sorti un nouvel album de chansons à partir de textes de Sainte Thérèse. Alors, comment expliquez-vous ce phénomène, plus de 120 ans après la mort de Sainte Thérèse, bien que ces textes soient toujours mis en chansons et réactualisés au goût du jour?
Sachez que Thérèse a touché beaucoup Édith Piaf.
Oui.
Édith Piaf, le chemin qu'elle a fait. Elle s'est réconciliée avec le Christ d'une certaine manière grâce à Thérèse. Elle a connu quand même dans son enfance une vie de bohème, enfin sa maman étant plus ou moins prostituée, etc. Hein, on sait qu'il tenait un bar en Normandie. Elle a beaucoup souffert, Édith Piaf, et c'est vraiment, elle avait cette médaille de Thérèse sur elle, et dans tout ce qu'elle a vécu, elle a toujours eu cette confiance profonde. Beaucoup d'artistes se confient à Thérèse parce que, d'abord, c'est une artiste, des poèmes, des poésies. Ouais. Elle avait des talents littéraires remarquables. Et puis, au fond, elle chante l'amour. L'amour, il est unique. Enfin, on aime Dieu, on aime les autres, on aime son épouse, on aime son mari. C'est toujours le même amour. Il n'y a qu'un seul et unique amour. Et au fond, Thérèse a été touchée par l'amour de Jésus. Et c'est... Ces poèmes sont d'une telle sensibilité, d'une telle profondeur, qui touchent des artistes, quels qu'ils soient. Je veux pas dire que Natacha Saint-Pierre se précipite dans les églises, en tout cas, elle a été profondément touchée spirituellement.
Oui.
Et dans sa foi, par Sainte Thérèse, elle a un enfant malade, on le sait, et elle lui confie à Thérèse. Et en même temps, je dirais, Thérèse a un rayonnement, qui touche beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment proches de l'institution de l'Église, mais parce que c'est Thérèse, je dirais, il y a une dimension spirituelle qui les touche.
Alors, vous le dites, Thérèse, elle est universelle, et pourtant, qu'est-ce qu'un lieu comme Lisieux peut apporter au diocèse ?
Beaucoup de gens passent à Lisieux, individuellement ou en famille. Ça aussi, dans notre diocèse, ça ne se sait peut-être pas, mais je tiens à remercier toutes ces personnes. Ce sont pas des personnes qui sont dans nos communautés chrétiennes, mais je sais, et pour avoir un certain nombre de confidences, que beaucoup de personnes, quand ils vivent des moments douloureux, qu'ils traversent dans leur vie, se tournent volontiers vers Thérèse, vont mettre une bougie, chez eux, dans leur maison, etc. Donc pour moi, un lieu comme Lisieux, dans un diocèse, c'est exceptionnel, c'est comme Lourdes, et pour le diocèse de Tarbes. Donc Lisieux, vous allez dans le monde, je suis allé au Brésil, là je vais aller au Rwanda, dès qu'on dit Thérèse, Lisieux, elle est connue universellement. Bien mieux connue parfois que certains de nos contemporains qui habitent sa région ne la connaissent.
Alors, Monseigneur, nous poursuivons notre entretien et vous allez partir, vous venez de le dire, en voyage au Rwanda du 6 au 12 octobre. Pourquoi ce voyage ?
Alors, nous sommes jumelés plus ou moins avec un diocèse. L'évêque de Biumba va venir justement pour les fêtes thérésiennes. Le père Sinergou, le vicaire général, est allé une douzaine de jours là-bas pour rencontrer déjà les prêtres, etc. Vous voyez, quand on accueille des prêtres venant d'Afrique, là nous sommes un peu dans l'Afrique presque de l'Est, c'est important qu'il y ait des liens. Nous sommes allés dans l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, parce que nous avons un certain nombre de prêtres du Bénin. C'est important qu'il y ait ces liens entre des églises sœurs. Je vais au Rwanda d'abord pour découvrir cette réalité. Je connais pas le Rwanda. Donc découvrir c'est la réalité locale du pays, la vie de ces prêtres, les écouter. C'est une retraite pour les prêtres, mais il y a des échanges. Je rencontrerai les prêtres chaque jour, les écouter, ce qu'ils vivent, mais aussi pour partager ce que nous vivons. Parce que c'est un choc religieux d'abord pour eux. Ils se disent, mais pourquoi on a des églises et il n'y a personne? Qu'est-ce qu'on a raté? Vous voyez, ils seraient tentés rapidement de nous culpabiliser. Alors que eux, c'est vrai qu'il y a du monde. Donc comprendre notre société, comprendre ce qu'est l'église aujourd'hui dans ce monde, dans cette société de consommation, etc. Essayez de leur expliquer, puis revenir toujours aux fondamentaux. Pourquoi on donne sa vie à la suite de Jésus? Comment on peut la donner dans leur pays? Mais comment aujourd'hui des prêtres la donnent chez nous, dans nos diocèses, dans le contexte de notre société? Donc voilà un peu, je dirais, ce que je vais essayer de vivre dans un premier temps. Alors je rencontrerai bien sûr aussi des laïcs, leur évêque, etc. Hein. Et ça sera le prélude, sans doute, hein, d'un jumelage.
Alors voilà, j'allais vous poser la question, parce que effectivement, on entend déjà parler de ça depuis quelque temps. Est-ce que oui, ça,
voilà,
ça
puisque leur évêque connaît bien notre diocèse. Hein.
Oui.
Il va venir, d'ailleurs, c'est lui qui préside les fêtes thérésiennes à Lisieux. Et pour lui, c'est important qu'il y ait un jumelage, que des laïcs puissent partir, par exemple, donner leur vie 2 ans au service de plus pauvres au niveau médical, etc., voyez, ou dans l'enseignement. Hein. Là-bas, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est moins le français, c'est davantage l'anglais, hein, c'est indéniable, mais qu'il y ait des passerelles où des jeunes vont faire une action humanitaire pendant l'été ou autre. Hein, ça, c'est important, hein, que ces liens puissent se créer pas seulement entre les deux évêques, pas seulement entre le vicaire général et... Non. Et puis, en même temps, il a besoin aussi de nous pour la formation de laïcs, oui, pour la formation de prêtres. Je pense en particulier à l'enseignement catholique. Eux ont besoin de former des enseignants. Il manque d'enseignants. Et c'est souvent des prêtres qui vont venir, qui vont suivre 3 ou 4 ans, qui vont être ici au moins pour 3 ans, oui, qui vont aller à l'université, qui vont se former et qui redonneront dans leur diocèse. Mais l'évêque me dit aussi qu'il peut y avoir des laïcs qui partent pour former ces enseignants pendant un certain temps, hein, et qu'ils mettent leur savoir aussi au service des communautés qui vivent dans ce pays.
Alors, dernier sujet de notre émission, Monseigneur, vous proposez aux prêtres du diocèse de se retrouver le 16 octobre pour une journée sur les pas du Père Jacques Hamel. Pourquoi cette proposition ?
Ben, j'essaie qu'entre prêtres, on puisse se retrouver.
Oui.
Moi, ma souffrance, c'est l'isolement des prêtres. Hein. Et je crois que un prêtre, et c'est la fraternité, une fraternité presbytérale. Et là, le chemin, il est douloureux, il est difficile. Je le dis, nous avons des efforts à faire, chacun a des efforts à faire, pour essayer de se retrouver avec d'autres prêtres. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, le pape le rappelle, donc il faut que l'évêque propose des occasions. Il y a des retraites, il y a une retraite diocésaine à la fin du mois de janvier, il y a Très-Saint, où on va se retrouver avec nos frères diacres, avec des laïcs. Vous sentez que l'enjeu pour l'Église d'aujourd'hui, c'est la fraternité. On se soutient les uns les autres. Cette société individualiste qui nous marque beaucoup plus qu'on ne pense, hein, eh bien, ne nous construira pas humainement. Elle est en train de nous détruire. Elle détruit des liens familiaux, mais elle détruit des liens à tous les niveaux. Cette vie trépidante qu'on est en train de mener, ben quelque part, c'est au détriment, hein, du temps qu'on prend pour être avec les autres, pour se vivre ensemble. Donc, la figure du Père Hamel, c'est tous les prêtres aînés comme les plus jeunes. C'est l'ensemble des prêtres du diocèse qui est invité à se confier, à confier son ministère à un frère prêtre qui a donné sa vie pour son diocèse. Il a aimé son diocèse de Rouen.
Oui, et les paroissiens qui lui étaient confiés.
Et les paroissiens qui lui étaient confiés.
Il a aimé faire connaître Jésus.
Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a là une figure, de plus en plus de diocèses organise des pèlerinages auprès du Père Jacques Hamel. Ça serait quand même surprenant que nous qui sommes à que quelques kilomètres, voyez, on n'y aille pas. J'espère que les paroissiens qui nous écoutent interrogeront leur prêtre pour dire « Père, est-ce que vous allez à ce pèlerinage ?» J'invite vos auditeurs à demander à leurs frères prêtres, à les stimuler de participer à ce pèlerinage. Normalement, ce 16 octobre, il ne devrait pas y avoir de messe dans les paroisses. Hein, c'est un jour de semaine, les prêtres peuvent se libérer ce jour-là. Oui. Donc, et qu'on pense aussi à la place de nos frères prêtres aînés. qui continuent de donner de leur temps, malgré leur santé défaillante, etc. Ils sont parfois en maison de retraite, ils n'ont pas forcément une visite ou autre. C'est l'occasion de prier pour eux. Beaucoup d'entre eux ne pourront pas venir, hein, ils sont trop âgés. Mais qu'ils savent que ce jour-là, on va prier avec eux et pour eux.
Eh bien, merci, Monseigneur. Et donc, nous vous souhaitons là aussi une très belle journée pour ce 16 octobre et puis que vous viviez réellement cette fraternité entre prêtres. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous vous donnons donc rendez-vous le mois prochain pour un nouvel entretien avec Monseigneur Boulanger. Au revoir.